Chapitre 33. Suite de l'enchantement de notre héros. Tandis qu'on se préparait à partir, Don Quichotte appela son triste écuyer et lui dit d'une voix basse : Mon fils, je crois avoir lu tout ce qui existe d'histoire de chevalerie, mais je ne me rappelle point que jamais aucun chevalier ait été enchanté comme je le suis. Ordinairement, quand on les enlève, c'est par le milieu des airs, enveloppé dans un nuage, ou bien sur un char de feu, sur un hippogriffe ou quelque autre monstre. Mais il me semble que je suis dans une simple charrette, et que ces animaux attelés ne sont tout au plus que des bœufs. Vive Dieu, mon fils, j'en ai honte. Peut-être aussi que dans ce siècle, les enchantements ne sont plus comme ils étaient autrefois. Les modernes magiciens veulent sans doute changer les coutumes. Qu'en te semble, mon ami Sancho ?
Monsieur, répondit l'écuyer, je ne saurais trop que vous dire sur les magiciens modernes, parce que je n'ai pas tant lu que vous.
Mais j'ai dans la tête que les fantômes que nous voyons là ne sont pas trop catholiques.
Catholiques, mon enfant ?
Comment voudrais-tu qu'ils le fussent, puisque ce sont des démons ? Ils ont revêtu la forme que tu leur vois pour pouvoir m'enfermer ici. Mais cette forme n'existe point, ce n'est qu'une vaine figure, une apparence, une vapeur. Avise-toi de les toucher. Ta main ne prendra que de l'air.
Oh, que nenni ! Je les ai touchés par derrière, et c'est de la bonne chair.
Il y a plus, monsieur. Vous savez bien que les démons sentent le soufre.
Eh bien, celui qui est là sent l'ambre et la fleur d'orange.
Sancho montra Don Fernand.
Prends-y garde, répondit Don Quichotte. Ton nez te trompe, mon ami, ou ce malin diable veut t'attraper.
Don Fernand et Cardenio, qui entendaient cette conversation, craignirent d'être découverts et hâtèrent leur départ. Dès que Rocinante et l'âne de Sancho furent prêts, Cardenio suspendit à l'arçon d'un côté le bouclier du héros, de l'autre le bassin à barbe. Sancho, monté sur son âne, mena le coursier par la bride. Les archers, moyennant une récompense, convinrent avec le curé d'accompagner la charrette. L'hôtesse, sa fille et Marie Thorne vinrent à travers les barreaux prendre congé du chevalier en feignant de verser des larmes. Don Quichotte les consola, les assura que jamais ils n'oublieraient leur bonne réception, leur demanda de prier Dieu que sa captivité ne fût pas longue. Pendant ce temps, Maître Nicolas et le curé disaient adieu à Don Fernand, à Cardenio, à l'auditeur, qui les embrassèrent avec tendresse. Toutes les dames, surtout Dorothée, les virent partir avec des regrets et leur firent promettre d'instruire Fernand de ce que deviendrait Don Quichotte. On s'embrassa de nouveau, et le bon maître Nicolas, l'obligeant curé, se mettant des masques pour n'être pas connu de Don Quichotte, montèrent enfin sur leur mule. Don Quichotte, assis dans la cage, les mains attachées sur son estomac, les pieds étendus en avant, gardait un profond silence, se tenait raide, grave, droit, immobile comme une statue. On fit 2 lieues sans s'arrêter, dans le dessein de gagner un petit vallon où le barbier assurait que l'on trouverait du frais et de l'herbe. On était près d'y arriver lorsqu'il vint à passer un chanoine sur sa mule, accompagné de 6 ou 7 domestiques bien montés. Le chanoine, après avoir salué nos voyageurs, s'arrêta pour considérer cette charrette, cette cage, cet homme enfermé dedans. Et ne pouvant comprendre ce que c'était, il pria un des archers de le lui dire. Don Quichotte, qui l'avait entendu, avance aussitôt son visage contre les barreaux et se presse de lui répondre. « Seigneur chevalier, je suis enchanté. Vous savez comme moi que l'envie attaque souvent les héros, surtout ceux qui, en dépit des magiciens, marchent dans le sentier étroit de la gloire et vont écrire leur nom au temple de l'immortalité. » Voilà précisément mon histoire, et ce qui fait que je suis enchanté. Vous êtes instruit à présent. » Le chanoine écoutait sans répondre, lorsque le curé, s'approchant, lui dit « Oui, monsieur, l'illustre guerrier que vous voyez dans cette cage est le fameux Don Quichotte, si connu dans l'univers, sous le nom de chevalier de la triste figure. Ses grandes actions, ses exploits, lui ont attiré des persécuteurs. Et, comme il vous l'a dit lui-même, il est enchanté, monsieur. » Plus surpris encore d'entendre tenir le même langage à celui qu'on avait enfermé et à celui qu'on avait laissé libre, le chanoine promenait ses yeux sur l'un et sur l'autre. Sancho, qui n'était point de bonne humeur, reprit alors d'un air renfrogné.
« Oui, enchanté,
tout comme ma mère. Ce n'est pas à moi qu'il faut en compter. Je vois ici bien des gens qui, parce qu'ils ont un masque sur le visage, s'imaginent que je ne les connais point. Ils se trompent, à commencer par vous, monsieur le curé. On a bien raison de dire que là où se trouve l'envie, le mérite ne peut dormir. Le diable puisse-t-il emporter tous ceux qui empêchent mon bon maître de se marier avec cette infante et de me faire comte ou duc? C'est égal, il est des gens qui, malgré leur petite tonsure sur la tête, pourraient payer dans l'autre monde le bien qu'ils ôtent dans celui-ci.
Ah ah, Sancho, reprit le barbier, on n'aurait pas trop mal fait de vous enchanter comme votre maître et de vous placer dans la cage. La fumée des grandeurs semble vous avoir enivré la tête.
Je ne m'enivre jamais, répondit l'écuyer, et ma tête est tout aussi bonne que celle de certains barbiers de ma connaissance, qui vont se mêlant des affaires d'autrui pour faire les entendus.
Le curé fait signe à maître Nicolas et au chanoine de s'éloigner. Alors il instruisit le voyageur de ce que c'était que Don Quichotte, lui raconta comment ce bon gentilhomme, d'ailleurs plein d'esprit et de qualité, avait eu la tête tournée par les livres de chevalerie, tout ce qu'il avait fait depuis si longtemps, les moyens qu'ils étaient forcés de prendre pour le ramener dans sa maison. Les deux ecclésiastiques, épris de l'amour des lettres, abrégeaient la route en discutant lorsque le barbier les fit apercevoir qu'ils étaient arrivés au petit vallon où il était d'avis qu'on se reposât. Le chanoine voulut s'arrêter. Il offrit de bonne amitié les provisions qu'il portait avec lui, et ses domestiques, par son ordre, mirent le couvert sur l'herbe. Sancho, voyant le curé et le barbier loin de la charrette, n'avait pas manqué de profiter de leur absence pour s'entretenir avec son maître. « Monsieur, lui avait-il dit à mi-voix, pour l'acquit de ma conscience, je dois vous instruire d'un fait qui vous expliquera peut-être de grandes choses. C'est que ces deux fantômes que vous voyez avec des masques sont le curé de notre paroisse et maître Nicolas le barbier. Cela doit vous faire comprendre qu'il y a du micmac dans votre enchantement. Et si vous me permettez de vous faire une petite question, j'espère vous prouver, clair comme le jour, que nous sommes tous deux les dupes de la malice des envieux. Ma question va le démontrer. Mais je n'ose pas vous la faire.
Ose tout dire, mon fils, je te répondrai avec franchise.
Monsieur, depuis votre prétendu enchantement, je voudrais savoir si vous avez senti le désir de sortir de votre cage.
Sans doute, je désire fort d'en sortir.
Je ne t'entends pas, Sancho.
Je le vois bien.
Écoutez-moi. Les chevaliers les plus errants possibles, lorsqu'ils ont bu de l'eau limpide des ruisseaux, sont quelquefois obligés d'aller passer un petit moment tout seuls, debout contre un arbre.
Je vous demande...
Oh, j'entends. Et je t'avoue, mon ami, qu'à l'instant même où je parle, je désirerais vivement d'avoir cette liberté.
Justement, voilà le nœud.
Ne m'avez-vous pas dit 100 fois que les enchantés ne mangeaient, ni ne buvaient, ni ne dormaient, ni ne faisaient rien de ce que font les autres hommes?
Or, ce que vous venez de m'avouer prouve, comme 1 et 1 font 2, que vous n'êtes point enchanté.
Comme l'écuyer parlait ainsi, la charrette arriva dans le vallon, où le curé, le chanoine et le barbier s'étaient déjà mis à table. Les bœufs furent dételés. Le bon Sancho vint prier le curé de vouloir bien faire sortir son maître de la cage, parce qu'il était absolument nécessaire qu'il prît un moment le grand air. Le curé ne s'y refusa point, mais il exigea que notre héros donnât sa parole de chevalier qu'il ne chercherait point à s'échapper.
« Je la donne, » cria Don Quichotte, « et je suis surpris que vous la demandiez, messieurs les magiciens, puisque vous pouvez d'un seul mot attacher mes pieds à la terre. »
Aussitôt il fut délivré. On lui délia les mains. La première chose que fit Don Quichotte fut d'élever ses grands bras en allongeant son maigre corps. Il s'éloigne alors de quelques pas et revient bientôt se mettre à dîner avec toute la compagnie. Notre héros, paisible et de sang-froid, parla pendant le repas sur divers sujets agréables avec autant de sens que d'esprit. Le chanoine, en l'écoutant, ne pouvait se lasser de le regarder. Il ne comprenait point que cet homme qui annonçait tant de lumière, de jugement, d'éloquence, fût ce même fou qu'on était obligé d'enfermer dans une cage pour le ramener chez lui.
« Seigneur gentilhomme, dit-il, daignez me permettre, en faveur de l'estime et de l'intérêt que vous m'inspirez, de vous parler avec franchise. Comment se peut-il
qu'avec tous les dons que vous avez reçus de la nature, les connaissances que l'étude vous a fait acquérir et cet excellent esprit qui éclate dans vos discours, vous vous laissiez égarer par les chimères que vous avez lues, au point de vous croire enchanté. Pourquoi ne cherchez-vous pas, dans l'histoire, ces exemples, ces beaux modèles dont votre âme ardente a besoin? Vous y trouveriez des héros dignes de votre admiration. Ne pensez-vous pas qu'un César, un Hannibal, un Alexandre, un Cid, un Gonzalve de Cordoue ne valent pas un peu mieux que les chimériques chevaliers errants ? Don Quichotte écoutait le chanoine avec une grande attention. Lorsqu'il eut fini, « Seigneur, répondit notre héros, il me semble que le but de votre discours serait de jeter quelques doutes sur l'existence des chevaliers errants, ainsi que sur la vérité, l'utilité des livres de chevalerie que vous paraissez regarder comme frivoles, dangereux, capables de troubler l'esprit, la raison de certains lecteurs et de les mener jusqu'au délire de s'imaginer qu'ils sont enchantés. Oui, Seigneur, reprit le chanoine, charmé de voir Don Quichotte résumer ce qu'il avait dit avec tant de calme et de suite. D'après cette opinion, reprit le chevalier, j'ai de justes raisons de conclure que ce n'est pas moi, mais vous qui êtes véritablement enchanté. Sans cela, monsieur, comment concevoir qu'un homme aussi instruit que vous le paraissait osa évoquer en doute ce que l'univers entier s'accorde à nous raconter d'un Amidis, d'un Fierabras, d'un Charlemagne, d'un Juan de Merlot, d'un Mélianis, d'un Fernand de Guevara et d'une foule d'autres héros dont les actions sont rapportées par les plus petits détails. Je vous prouverai, quand vous voudrez, par des monuments authentiques, que Roland, Renaud son cousin, Gonzalve de Cordoue, Tristan de Léonois, Pelage, les pères de France, ne sont point du tout des êtres imaginaires, que leurs histoires sont certaines, et que pour les révoquer en doute, il faut renoncer à toute logique, comme il faut renoncer au bon goût pour ne pas se plaire à cette lecture. Quoi de plus agréable, de plus amusant que les aventures qu'on y trouve? Ne seriez-vous pas charmé, monsieur, si, au moment que nous parlons, nous voyions paraître devant nous un immense lac rempli de couleuvres, de serpents, de toutes sortes de bêtes horribles, et que du milieu de ce lac une triste voix nous cria « Chevalier, dont la valeur ne redoute aucun péril, précipite-toi dans ces noires eaux si tu veux jouir des grandes merveilles que renferment les châteaux des sept fées. Aussitôt je me recommande à madame, je m'élance au milieu du lac, j'arrive dans un lieu charmant, dans une campagne riante, où, sous des berceaux de verdure, je vois couler à mes pieds des ruisseaux d'un pur cristal. J'entends chanter sur ma tête mille et mille oiseaux divers. Je m'avance au milieu des fleurs et des arbrisseaux odorants, à travers les fontaines de jaspe, les pavillons de marbre, les grottes de coquillages et mille autres monuments des arts, où, en épuisant tous les secrets du goût, en réunissant toutes les richesses, on est enfin parvenu à imiter, à varier, à surpasser la nature. J'arrive, en admirant, jusqu'à un superbe château dont les murailles sont d'or, les créneaux de diamants, les portes de saphir. Vous jugez que je m'arrête pour considérer ce château. Mais voici 12 demoiselles qui viennent m'environner et m'introduire dans le palais. Là, ces demoiselles me déshabillent, jettent sur moi des essences, me couvrent ensuite d'un voile de lin parfumé, d'un manteau brodé de rubis, et me conduisent dans une autre salle où l'on me sert un repas exquis. J'entends pendant ce repas une musique délicieuse, sans pouvoir deviner d'où elle vient. La table disparaît. Je vois arriver une dame beaucoup plus belle que celle que j'ai vue, qui vient me raconter comment elle est enchantée dans ce beau château et me révéler des secrets qu'il ne m'est pas permis de vous dire. Aussi je m'arrête là, et je me borne à vous confier que la fin de cette aventure me rend maître d'un grand empire et me fournit les moyens d'exercer ma libéralité naturelle en donnant un petit état à mon fidèle écuyer. « Oui, messieurs, s'écria Sancho d'un air fier, c'est par là que nous finirons, en dépit de tous les envieux. Et une fois roi ou duc, je vis de mes rentes, j'afferme mes terres, je ne fais plus que ce qui me plaît. Et ne faisant plus que ce qui me plaît, je vis à ma fantaisie. Et vivant à ma fantaisie, je suis content. Et étant content, je n'ai plus rien à souhaiter. Et n'ayant plus rien à souhaiter, tout est dit. Jusqu'au revoir !» comme se disent les aveugles. Voilà ma façon de penser. »
Sancho boit un grand verre de vin en achevant ses paroles et lance des regards terribles sur maître Nicolas et sur le curé. Mais tout à coup, le son lugubre d'une trompette attire l'attention de Don Quichotte, qui se lève précipitamment pour voir d'où peut venir ce triste bruit.